La broderie, c'est une activité solitaire. C'est une danse entre ma main, le fil, l'aiguille et le support que j'ai décidé de broder. Cet automne, j'ai participé à un projet porté par le Muséum Art Latent, musée de Provence appartenant aux Bouches-du-Rhône, La Collective, lieu de ressources et de soins pour les femmes à Arles, et Hélène Riff, artiste aux mille surprises. À l'occasion de ce projet, on s'est retrouvés entre femmes pour broder pendant une après-midi par semaine sur une dizaine de séances au total. Le 9 mars dernier, lendemain de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes et des minorités de genre, nous avons fait une restitution de tous les travaux que nous avions réalisés durant ces quelques mois. Pour la première fois, j'en ai profité pour embarquer mon micro et discuter avec les femmes avec lesquelles j'ai brodé pendant des semaines. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Chimère qui met à l'honneur la broderie, la sororité et la transmission. Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi, c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. La Collective avec Fanny Petit, le Muséum Art Latent avec Claire Laurentio et Hélène Riff, artiste archipel, se sont associés pour constituer un petit cercle de femmes autour de l'envie de broder et la question de la transmission. Les fils de toutes les couleurs ont été chinés pendant l'été. L'atelier s'est déroulé d'octobre à décembre et un peu en février, en rab, toujours le jeudi. Il y a eu des temps de parole instaurés et des temps de broderie où la parole allait comme elle allait, vivante comme un poisson, sautant d'une chose à l'autre parfois, comme quand on tourne la molette d'une radio. S'arrêtant longuement sur un sujet, laissant aussi des parts de silence, de gravité, ou des petites injures pour un problème technique avec l'aiguille. À bord il y a gâteau 3 étoiles, jolie tasse, ronron d'un radiateur soufflant, on est dans le cœur de la semaine, c'est vif, tranquille et remuant aussi. On est concentré sur l'aiguille et sur les quelques centimètres de tissu devant soi, mais relié aux autres et à la consistance du moment. C'est une acuité proche de celle des conversations dans l'obscurité, mais c'est au soleil, celui des jeudis à Arles, par les vitres de la Collective au 75 avenue de Stalingrad, ou du Muséum Art Latent quand on s'y transporte. L'aiguille de la montre et l'aiguille à coudre font un toit au-dessus de nos têtes. Quand c'est l'heure de relever le nez, on dit « Ah bon, déjà ?» et le monde se remet à tourner, mais un peu autrement. Ce que je viens de vous lire, c'est le texte de présentation du projet, rédigé par Hélène à la fin du cycle, et recopié par ses soins sur un immense cerceau qui accueillait les visiteurs et les visiteuses à l'entrée de l'événement de clôture. Mais je vais un peu vite. Avant de vous parler de la fin, il faut que je vous parle du début. Et avant de vous parler du début, je pense que je me dois de vous introduire un petit peu mieux cet épisode spécial de Chimère. Alors pourquoi cet épisode il est si spécial? Eh bien parce que c'est la première fois depuis le début de cette aventure que je sors de la binarité du solo ou de l'interview, et je fais un peu des deux. À la base j'ai eu envie de vous parler de ce cycle d'atelier puisque moi j'y ai participé, et parce que ça a été une expérience vraiment transformatrice pour ma pratique et qui m'a fait beaucoup de bien sur le plan personnel. Je m'étais dit super, je prends le micro et j'en parle comme ça un petit peu comme j'avais fait pour l'expo à la cabine l'année dernière. Alors c'était une super idée dans ma tête et je commençais déjà à réfléchir à ce que j'allais raconter, mais quand on est arrivé à la fin des ateliers, j'ai réalisé que ça n'allait pas du tout. Ce projet, c'était une expérience commune. Mon épisode de podcast, il devait aussi être créé en commun. Ça pouvait pas juste être un podcast à une ou deux voix, il fallait que je multiplie les points de vue, que je multiplie les prises de parole de la même façon que dans le cadre des ateliers, j'ai pas brodé toute seule, j'ai brodé avec une quinzaine de personnes et j'aurais du mal à le rendre correctement si j'avais été la seule à en parler. Alors je suis allée chercher des voix, les voix des femmes avec lesquelles j'ai brodé pendant des semaines et des semaines. Je leur ai demandé de parler de nos ateliers et de leur expérience de la broderie dans ce cadre qui est un petit peu particulier. J'ai aussi parlé aux trois femmes qui sont à l'origine de ce projet et je leur ai demandé de me raconter l'histoire de ce cycle d'ateliers, comment est-ce qu'il est venu au monde. Je suis donc, pour finir cette introduction, tout particulièrement heureuse de vous introduire au premier épisode de Chimère aux multiples voix, dans lequel nous allons vous raconter en cœur une histoire qui, je pense, nous est toute très précieuse aujourd'hui. Après le point final de ce cycle d'atelier, j'ai rencontré Fanny Petit pour la collective et Hélène Riff pour leur demander de revenir sur les origines de ce projet.
Alors oui, je pense que ça a commencé avec l'envie qui était déjà présente à la collective d'avoir un temps autour de la broderie. Parce que la broderie, elle est quand même utilisée dans beaucoup de cercles aussi féministes, on va dire, comme une manière de détourner à certains moments ce savoir-faire un peu ancestral. C'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas de le revisiter avec les problématiques contemporaines. Donc il y avait cette idée qui était déjà présente à la collective. Et quand Claire du Muséum Arlatan est venue à la collective pour rencontrer la collective, hein, pour que le Muséum Arlatan et la collective se connaissent mieux et imaginent ensemble peut-être des partenariats, très vite on a remis cette question un peu au centre de notre discussion. Et Claire y voyait aussi, je pense, un intérêt en termes de par rapport au musée, qui est un lieu de patrimoine et de matrimoine aussi. Donc, en se disant que ça pouvait être on pouvait créer quelque chose qui ait du sens par rapport à la collective et au muséum. Et on pouvait imaginer un travail ensemble en posant d'un côté la broderie comme une médiation. Et d'un autre côté, la question du soin, alors du soin dans le sens de prendre soin, comme étant au cœur de ces ateliers. L'année dernière, je crois que c'était quand on avait fait un événement à l'archipel, durant lequel, Hélène, toi, tu as proposé à quelques femmes de s'installer devant ton atelier en faisant des petits travaux de réparation, des travaux de broderie sur la manche de son t-shirt, enfin. Et quelques femmes s'étaient installées et avaient éprouvé une certaine joie à se retrouver, il me semble, autour de toi. Et donc, moi, ça, c'était resté aussi comme un beau moment. Et donc, très vite, quand on a pensé, Claire et moi, cet atelier, on s'est tourné vers Hélène par rapport à ce moment, sachant que tu n'étais pas forcément brodeuse professionnelle, mais c'était quand même un savoir-faire que tu, voilà, une connivence que tu maîtrisais. Et puis il me semblait que tu créais une certaine douceur dans ce temps qui était assez importante aussi pour la collective quand on fait intervenir quelqu'un.
Je me souviens que tu m'as appelé pour me proposer de participer à ce projet et que j'ai dit oui parce que ce petit moment de broderie avait été justement un moment un peu de vibration intéressante et que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on cohabite les ateliers d'artistes et la collective et que c'était l'occasion de se rencontrer et de travailler ensemble.
Quand j'ai découvert ce nouveau projet dans cette association à quelques pas de chez moi, j'ai hésité à y participer. Je brode, ça je pense que tout le monde est au courant, j'aime broder. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que je vais aimer le fait de pratiquer la broderie en groupe? Est-ce que ça va pas être trop intimidant de travailler en public? Et aussi, ce sujet de la transmission, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Je sais que ça va peut-être faire ressortir des choses chez moi que moi-même, j'ai pas forcément anticipé. Et est-ce que je risque pas de me sentir un peu trop submergée de remuer tout ça avec des inconnus? C'est un petit peu tout ce que j'avais dans la tête à ce moment-là quand j'ai vu ce cycle d'atelier passer. En plus, le premier atelier avait été annulé à cause d'un cas Covid, donc en fait le cycle a commencé une semaine plus tard que prévu. Donc je m'étais dit, peut-être qu'au fond finalement c'est un signe que je devrais pas y aller. Et puis, au final, la veille du jour fatidique, j'ai pris ma motivation à deux mains et j'ai décidé d'y aller.
Alors ce projet c'est une histoire de rencontre, du début à la fin. C'est parti de la rencontre de Fanny Petit de la collective avec Hélène Riff qui est donc illustratrice jeunesse et créatrice multiforme et moi, donc moi je suis médiatrice au Muséum Arlatan et on avait envie de proposer à un groupe de femmes usagères de la collective un projet, un groupe pour se réunir et on avait envie de travailler autour de la transmission. La transmission parce que c'est aussi un des thèmes qu'on étudie en ethnographie, puisque le Musée en latin est un musée départemental, un musée de société qui s'intéresse à un territoire, la Provence et les individus qui la peuplent. Donc on s'intéresse aux histoires de transmission et notamment entre femmes. Qu'est-ce qui marque nos identités, comment nos expériences passées, les rencontres qu'on a faites marquent de leur empreinte nos expériences, nos vies, nos parcours. Et donc ça a démarré comme ça. On a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer en mettant en commun nos savoir-faire. Et on a réuni à l'automne 2023 un groupe d'une quizaine de femmes sur 9 sessions autour d'une grande nappe. On a commencé à broder et jusqu'à ce matin de mars 2024 où on restitue tout notre travail, donc cette grande nappe brodée, toutes les créations personnelles, toutes les étapes qui nous ont amenés à ces réflexions et à ces partages.
La personne que vous venez d'entendre, c'est Claire Lorenzio, avec qui j'ai échangé le jour même de la restitution du projet. Claire est médiatrice culturelle au Muséum Art Latin, et sans elle, ce projet n'aurait sûrement pas vu le jour. En tout cas, pas sous cette forme.
Oui, parce qu'en fait, en plus, on avait pensé assez vite avec trois dimensions. La broderie comme médium, on va dire. Et puis, donc je disais la question du soin, où on s'est dit aussi, on avait quand même envie qu'il y ait un fil qu'on tire. Et le fil, ça a été cette question de la transmission. Se dire, en fait, est-ce qu'on peut penser ce temps ensemble comme un temps qui nous relie à la génération d'avant et qui nous relie à la génération d'après. Ça a été quand même très vite une envie de prendre cette question-là. C'était un petit peu l'envie de départ. Et pour la travailler, je pense que c'est toi, Hélène, qui a pensé, t'es venue en fait avec, un peu comme tu l'as souvent fait dans cet atelier, venir avec plein de petites sources d'inspiration. Des matériaux, les matériaux qu'on utilise dans la broderie, donc du tissu, des fils, des aiguilles. Et cette nappe est apparue avec ses initiales et qui nous a un peu guidés. Je pense que c'est. Je ne sais pas comment c'est venu dans les discussions, mais en tout cas, cette nappe avec ses deux initiales, on dit bah, c'est certainement un super point de départ. De penser qu'on va pouvoir y ajouter chacune les initiales des personnes qui ont compté. Et c'était important aussi qu'on parte autour d'un ouvrage collectif avant de rentrer dans un peu plus d'intériorité, peut-être.
Cette nappe, c'était un peu comme une page blanche, mais ce n'est pas une page blanche neuve, puisque c'était... un objet qui a été acheté à Emmaüs, qui a déjà eu une vie, qui a déjà été brodé. On ne saura jamais qui l'a brodé et qu'est-ce que signifient ces lettres, sur lesquelles on ne s'est jamais attardé d'ailleurs. Ouais. C'était RM. Ouais, Je me suis dit après qu'on aurait pu aussi s'interroger, trouver des mots issus de ces deux lettres. Mais c'est moins intimidant aussi de partir sur ce type de support. Et ça allait bien avec la question de la transmission d'une génération à l'autre.
Mes premières craintes se sont vite dissipées. Finalement, ces ateliers, c'était un peu ce genre d'espace où on n'est pas obligé à grand-chose. Le contrat, c'était « si tu veux partager quelque chose, vas-y, mais si tu as plutôt envie ce jour-là d'écouter et de rester un peu plus discrète, personne ne viendra te forcer à quoi que ce soit. » Point après point, semaine après semaine, on a brodé. On a partagé des histoires personnelles, plus ou moins intime, plus ou moins joyeuse, plus ou moins détaillée. Et je dirais que c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu pour mettre les gens à l'aise. Leur faire sentir qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent être sans les forcer à trop se dévoiler, et en même temps les encourager à partager au groupe et à alimenter les échanges. Et puisque maintenant le cycle d'atelier est terminé et que je peux en parler en connaissance de cause, je peux le dire que dans ce cycle d'atelier, ce pari a été réussi par nos animatrices Claire, Fanny et Hélène. En parlant d'Hélène, je vais maintenant vous lire un second texte écrit de sa main poétesse. « On a commencé par une nappe blanche sur laquelle était brodée R.M. Chacune de nous a brodé les initiales d'une personne précieuse pour elle dans la génération d'au-dessus. Ainsi sont arrivées J.V., C.R., B.C., M.V., E.M., M.Z., M.P., F.H., R.O., Y.S., G.E., M.A., M.H., B.B., J.G., et MB. On a considéré de près la teneur de ce qui a été transmis par nos personnes inspiratrices. Aux deux lettres initiales, on a pu ajouter d'autres lettres pour trouver un mot ou des mots qui nous parlent et nous rattachent à elles. Non pas des lettres lancées à la légère avec un bic sur une feuille à carreaux, mais des mots bien pesés qu'on prend le temps d'inscrire dans la nappe point par point, parce que ces mots comptent pour chacune. Quand la nappe a été remplie de nos mystérieuses formules, on a chacune porté notre attention sur un petit ouvrage personnel qui jouerait trait d'union entre les personnes inspiratrices et celles qu'on aimerait inspirer. Voilà où nous en sommes, à vous d'entrer dans la danse, si vous voulez, en commençant par prendre dans la main un peu de fil. Vous l'avez compris, nous avons donc d'abord brodé sur la nappe, en commençant tout simplement. Des initiales, ça ne dit pas grand-chose. En tout cas, pas forcément. Ça ne force pas à dérouler toute sa vie en public. En préparant cet épisode, je me dis que c'est vraiment du génie d'avoir décidé de commencer nos ateliers comme ça. Ça permet d'entrer en douceur dans un chemin qui n'est pas toujours évident. Encore une fois, la transmission, ça peut faire remonter des choses qui sont pas forcément agréables. Et je pense que c'est vraiment une bonne façon d'entrer en matière sans faire fuir une grosse partie des participants. En tout cas, celles qui ont besoin de se sentir un peu à l'aise pour se livrer. Moi, je sais que c'était un peu le cas. J'ai pas forcément eu envie, dès la première séance, de dire tout ce à quoi ça m'avait fait penser ou de parler de ma vie personnelle. Et le fait de passer par des initiales, de juste dire « bah en fait j'ai pensé à telle personne qui s'appelle comme ça et du coup je vais broder ces deux lettres », ça m'a permis de gagner entre guillemets un petit peu de temps, de gagner quelques séances, des fois quelques semaines, pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et un peu plus profondément dans le sujet. Et puis après les initiales, on est allé plus loin. On a approfondi nos histoires, pas à pas, liées matériellement par cette nappe, parce qu'on l'a brodé tous ensemble, on l'a vraiment brodé en cœur, et symboliquement aussi lié par le fil de nos histoires que nous déroulions séance après séance. Parce qu'au début, comme on disait, on a ses initiales, après on a brodé des mots en rapport avec ses initiales, et aussi en rapport avec nos histoires, hein, c'était pas juste l'idée de prendre des mots au hasard dans le dictionnaire. Et du coup, au fur et à mesure, on est obligé d'aller plus loin, on en parle entre nous, des fois même on se posait des questions, parce que c'était pas toujours évident en fait de trouver des mots qui allaient avec les initiales, et du coup, on parlait de nos histoires aux autres, et puis les autres pouvaient intervenir en proposant des mots à broder avec les initiales, en fonction de ce qu'on avait raconté.
Oui, on savait assez vite, on a très vite pensé les deux premiers ateliers, je pense. Mais on n'a pas pensé les 8 ateliers séparément. On a lancé, en fait, c'est un peu comme si on avait... Enfin, moi, j'ai cette impression qu'on a lancé une dynamique et qu'après, on s'est laissé guider par ce qui avait été construit dans ces deux premiers temps autour de cette nappe, dans des temps d'échange aussi qu'on avait. On avait un peu plus formalisé, peut-être, les ateliers du départ, avec des temps où on était d'un côté de la pièce, où on échangeait, puis après, on allait vers la nappe. Et avec un temps de concentration, des temps de silence, des temps d'échange. Et puis, petit à petit, on s'est laissé porter par le groupe, par, je pense, toi, Hélène, aussi, ce que tu as mené, qui était aussi, finalement, dans le faire, dans le cadre suffisait en soi. Enfin, j'ai eu cette impression. Le cadre qui est, on se donne ce rendez-vous, il y a du matériel. On a lancé cette dynamique autour de la question de la transmission. Et puis, chacune, on chemine. Et puis, il y a eu des personnes très investies aussi, qui ont aussi un peu pris parfois le lead, le turbo. Enfin, voilà. Ce qui fait que ça a été de plus en plus collectif, peut-être aussi. Porté collectivement, je veux dire.
La transmission, c'est quelque chose qui nous traverse tous et toutes. Qu'on se pose à table avec une dizaine d'autres personnes pour en discuter ou non, on a des gens qui nous ont transmis des choses. On a des gens qui nous transmettent encore des choses. Et puis nous aussi, on a transmis des choses à d'autres personnes. Peut-être même sans s'en rendre compte. On se figure parfois que la transmission, c'est un moment qui est un peu solennel, un moment solennel d'apprentissage. Mais en réalité, moi je trouve que la transmission, ça passe souvent par d'autres moments, des instants précieux qui sont passés ensemble et dont chacun revient un peu plus riche. Donc ça peut prendre plein de formes au final, et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous traverse tous et toutes. Pour autant, même si c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes, c'est pas toujours quelque chose sur lequel on s'arrête pour réfléchir. Réfléchir à voilà, qui nous a marqué dans nos vies, qui a participé à la personne qu'on est aujourd'hui. Donc en général, bien entendu que la réponse à cette question ne se compte pas sur les doigts d'une main, on est fait de beaucoup de rencontres qu'on a fait, on est fait de beaucoup de personnes dont on a lu, dont on a vu le travail, mais il y a quand même des gens qui nous ont plus marqués que d'autres, il y a des gens qui nous ont plus transformés que d'autres, et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on s'arrête dessus pour réfléchir à ces moments-là et repenser à ces personnes et à ces moments très particuliers. C'est pour ça que ce projet, il était assez intéressant aussi, parce qu'il nous a forcé à remonter dans nos souvenirs, il nous a forcé à aussi nous fixer sur une personne en particulier. Et on a tous et toutes choisi des personnes assez différentes. Il y en a qui ont choisi leurs parents, il y en a qui ont choisi des amis, il y en a qui ont choisi des espèces de figures parentales ou en tout cas figures familiales qui étaient pas, avec qui ils n'étaient pas forcément liés par le sang. Et ce projet, il nous a forcé à aller chercher au fond de nous ce qu'on avait gardé de ces personnes-là, ce qu'on avait gardé de ces rencontres en fait. Et des fois, ces personnes-là, on n'est plus en lien avec eux, pas parce qu'ils sont forcément décédés, mais parce que depuis, on a emprunté des chemins différents, mais ça n'enlève rien au fait que ces rencontres ont été transformatrices et on en garde quelque chose d'extrêmement positif. Le jour de la restitution, donc le 9 mars, j'ai parlé à plusieurs participantes qui ont gentiment prêté leur voix pour vous parler de ce qu'elles retirent de cette expérience très particulière sur la broderie et la transmission. Par exemple, j'ai parlé à Sophie qui a brodé un livre pour son petit-fils.
En broderie, j'ai découvert de nouveaux points et j'aimerais ne pas les oublier pour m'en resservir. La transmission, cet atelier s'est fait au moment où j'avais un petit-fils, donc je lui ai fait un petit livre, donc je mesure mieux l'idée de transmission et je me dis que je vais essayer de lui apprendre à faire plein de choses avec ses mains et d'apprendre aussi à ma belle-fille qui je crois a envie de coudre et ne sait pas coudre. Et je suis contente de me rendre compte que ma maman m'a appris à faire plein de choses. Pas la broderie par contre, mais coudre et tricoter, et cuisiner. Et que la transmission, c'est tout un savoir qui se perpétue, qui se modifie, qu'on se réapproprie. Et c'est essentiel dans le lien et le partage.
Sans la transmission, on est juste des individus qui sont isolés et qui évoluent indépendamment les uns des autres. La transmission, c'est ce qui nous permet de faire commun, de créer du lien entre nous et d'avoir des histoires à raconter et à se raconter. C'est le fil conducteur entre ceux qui nous précèdent et ceux qui nous succèdent, donc on le voit hein, souvent on parle de transmission intergénérationnelle, mais c'est aussi le fil conducteur de nos évolutions et de nos rencontres. Parce que moi je suis persuadée qu'on se transmet aussi entre personnes du même âge. Il est aussi possible que des personnes plus jeunes que nous nous transmettent des choses qui vont nous transformer. Je pense que c'est pas juste une vision de ce qu'on a dans la vision classique de nos aînés nous transmettent et puis nous on transmet aux personnes qui nous succèdent. Je pense que la transmission, c'est à double sens. Et donc du coup, dès qu'une personne plus âgée nous transmet quelque chose, je pense qu'il faut considérer que nous aussi, en fait, on participe à cet échange-là, on participe à ce moment-là, et on n'est pas juste receveur passif, on est aussi complètement actif dans le processus, et on leur transmet aussi des choses. S'interroger sur la transmission, c'est aussi remuer des choses qui sont enfouies au fond de nous. C'est un peu, je trouve aussi, comme prendre un tas de pièces de puzzle et d'essayer de les assembler pour reconstituer l'image entière.
C'est une manière aussi de s'interroger sur où on en est, qui on est aussi un peu, ou c'est peut-être un peu des grands, c'est peut-être une grande question quand même, mais il y avait derrière la question de l'identité. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous, en fait, et qui nous a façonnés, qui nous a nourris, on est fait de plein de personnes.
Céline, une autre des participantes, m'a confié ce qu'elle avait retiré de ce travail qui va chercher beaucoup dans l'intime.
Le thème de la transmission, ça me parlait. En fait, ça se combinait avec l'envie de retrouver encore un groupe de femmes, parce que ça, je sais à quel point ça apporte. En fait, en tout cas, ça m'apporte à moi. Et donc, la transmission, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment aimé l'idée de dire vous pensez à une personne et on commence par broder tout ensemble autour de la table. Ça permettait à chacune un peu de parler librement. Ça n'a pas forcément été ou d'écouter ou de parler. Et puis après, le projet personnel, c'était aussi super intéressant parce que, encore une fois, je vais dire de fil en aiguille, mais les idées évoluent en fonction des idées qu'apportent les autres, des échanges en fait qu'on peut avoir entre nous. Moi, ça m'a permis, en faisant cette pochette en forme d'appareil photo, oui, je vais dire marque-page, Chérine. On va dire marque-page.
Ce marque-page est incroyable.
Un marque-page incroyable. Non, je vais revenir, mais c'était un peu d'aller fouiner dans le passé, dans l'histoire familiale. D'amener les livres de broderie de ma grand-mère qui faisait beaucoup de couture et de patchwork, de partager le matériel avec vous toutes, donc chacune un peu pioché, de parler de ma grand-mère, et puis au travers des pages, Claire qui découvre deux marque-pages avec des Chippendales dessus, donc c'est très rigolo en ayant une grand-mère qui va avoir elle est de 36, donc 88 ans à la fin de l'année, donc quand tu découvres des images comme ça dans ces ouvrages de couture broderie, c'est plutôt assez rigolo. Donc tu transformes à nouveau ton projet, t'agrandis la pochette pour faire rentrer les marque-pages dedans, et puis ce travail aussi de préparation de l'exposition en fait, où on est un peu en comité un peu différent, ça fait appel à d'autres compétences et envies de chacune, en fait, c'est chouette. Et l'envie que ça continue, que ça dure, que d'apprendre, et puis on se transmet les unes aussi aux autres nos compétences, nos envies, nos projets, nos espoirs, toutes ces jolies choses en fait de l'humain, et puis là l'humain féminin, parce que on parle de certains sujets des fois typiquement féminin. Voilà.
Alors, je dois vous avouer que quand on m'a demandé à la première séance de réfléchir à une personne sur laquelle j'allais travailler, j'ai un peu séché. J'imagine qu'on pense souvent à nos parents. En tout cas, moi, j'ai pensé directement à mes parents. J'ai jamais eu de lien très fort avec mes grands-parents, donc la famille, ça s'est résumé à ça pour moi. C'est-à-dire qu'on a le noyau dur de mes parents, ma fratrie. Et jusqu'à assez tard dans ma vie, ça s'est vraiment limité à ça. Mais j'avoue qu'après avoir pensé directement à mes parents, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile. Je me suis dit, mais tout le monde va penser à ses parents. Bien sûr que mes parents, ils m'ont beaucoup transmis, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les parents transmettent des choses à leurs enfants. Et j'avais l'impression que si je m'arrêtais là, je n'avais pas poussé la réflexion très très loin. J'avais envie d'aller creuser ailleurs, de réactiver aussi peut-être des souvenirs que j'avais oubliés et de pas m'arrêter juste à la première idée que j'avais en tête. Alors j'ai réfléchi très fort à une personne qui aurait pu me marquer. J'ai repassé les dernières années de ma vie en accéléré, et puis je l'ai trouvée. J'ai trouvé ma personne. Et autant vous dire que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ressorte. C'est quelqu'un que j'ai connu très peu de temps, avec qui je ne suis plus vraiment en contact, et je pensais pas que c'était elle qui allait ressortir. Et je peux vous dire aussi que je ne suis pas la seule à m'être surprise moi-même.
Moi, c'est marrant, quand on s'est posé la question de la personne inspiratrice, il y a une personne qui est arrivée à laquelle j'aurais jamais pensé. C'était pas du tout. J'avais jamais réalisé que je me sentais inspirée par cette personne. C'était une découverte. Et je me suis dit, pas elle. Elle est un peu périphérique dans mon arbre des amis, des personnes importantes. Et pourtant, c'était vraiment elle qui restait, et du coup c'était comme si dans une maison tout d'un coup il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait et que hop on la pousse et on voit un peu ce que ça donne. Moi quand j'ai trouvé deux mots issus des deux initiales brodées d'abord, de ces initiales à lui, parce que c'est un homme, quand j'ai mis les mots, C'était comme si je m'étais fait un tatouage, en fait. C'était très... C'était vraiment c'est des mots qui se sont inscrits en moi. Jardin gardé, donc. Ce que j'ai voulu faire dans ma broderie finale, toute seule, une fois qu'on a quitté la nappe, c'est de faire une broderie qui serait à l'endroit quasiment très discrète, enfin très discrète, quasiment blanche, et que les couleurs soient à l'envers, de l'autre côté, pour cette espèce d'envie de protéger quelque chose et pas de mettre tout forcément dans le pot du collectif et de... Voilà, de la visibilité, de laisser les couleurs pour celui, c'est sur des thés d'oreiller. Enfin, pour l'instant, c'est sur une thé, mais j'imagine qu'il y en aura plusieurs. Voilà, que la couleur soit réservée à la personne à qui j'ai envie de transmettre. Et je ne savais pas quel dessin inscrire par rapport à cette broderie. J'ai fait un essai qui était à la fois un essai technique, mais pas que. Parce qu'en revisitant, en ouvrant tous mes tiroirs, mes armoires, etc., j'ai, pour choisir le dessin qui serait bien pour cet endroit-là. C'est assez étrange parce que le dessin que j'ai choisi pour l'essai, mais qui quand même peut-être sera maintenu pour le résultat définitif, c'est un dessin collectif. C'est des petits cadavres exquis qu'on faisait avec mes enfants. J'en ai plein, j'en ai toute une collection là dans ma pochette. Et c'est marrant ce double mouvement de vouloir préserver quelque chose pour une seule personne, mais que ce soit quand même du collectif. Voilà, donc ça m'interroge. Moi, les dessins des enfants, j'ai toujours gardé. J'ai toujours eu une boîte de feutre dans les voyages.
Voilà. Ah ouais.
Tu vois, en fait.
Ah oui, du coup, quelqu'un dessine.
Quelqu'un dessine une tête et plie la feuille, la passe à son voisin, souvent avec le même crayon pour qu'il y ait une unité de couleur. Et du coup, on découvre le personnage à la fin. Et ça, on peut le faire avec les enfants de tous âges. On peut le faire en voyage, même si on comprend pas la langue.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, on obtient des créatures un peu. Un peu particulières, qui tiennent plus ou moins debout. Voilà. Et normalement, ces dessins-là, on les... Même si on garde les dessins d'enfants, ça, c'est le dessin qu'on jetterait parce qu'on le... Hop, on le fait au resto en attendant la commande ou on le fait dans un petit creux comme ça de temps. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse justement que des... J'aime bien mettre à l'honneur les restes, les épluchures de la pomme, par exemple, que je dessine tous les matins. Ou voilà, ces dessins qui n'ont pas plus d'intention que d'essayer de se raccorder, de voir comment on se raccorde finalement tant bien que mal les uns aux autres. Regarde, celui-là, il a une tête d'escargot, un grand ventre mou, un short de plage. Et puis on pourrait, ouais, et puis des bras un peu avec des pétales, ouais. Des bras de cygne, peut-être qu'ils regardent l'heure, je sais pas. Voilà, mais c'est des personnages qui pourraient presque devenir des vrais personnages d'une histoire. Pas tous, hein. Celui-là, je lui ferai pas confiance pour. Déjà, il a pas de bras, même s'il a un cœur. Mais là, tu vois, il y a des époques superposées. J'aime bien celui-là. J'ai choisi de broder un lion sur cette taie d'oreiller. Et la couleur orange, du coup, la couleur orange, elle est à l'intérieur de la taie d'oreiller. Et à l'extérieur, il y a juste un fil blanc qui vient maintenir le fil orange, mais sans que jamais le fil orange perce de l'autre côté.
Comme Hélène, j'ai été surprise de la personne à laquelle j'avais pensé. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une personne que je n'ai pas côtoyée très très longtemps. Je l'ai côtoyée quelques mois à peine. Notre relation, elle a été très très courte. Elle date de 2019, enfin 2018 à cheval 2018-2019. On a échangé quelques messages depuis, et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans qu'on n'a pas du tout parlé. Alors peut-être que nos routes se croiseront à nouveau dans le futur. Peut-être que cette histoire est réellement finie. Même si on n'échange plus jamais rien du tout, je pense pas que cette histoire sera un jour terminée. Parce que, en tout cas, moi, cette personne, elle m'a marquée à un moment de ma vie où je commençais à un petit peu à forger ce qui ferait de moi l'adulte que je suis aujourd'hui. Et du coup, non seulement je l'oublierai jamais, mais en plus, ce que j'ai retenu de cette rencontre-là, c'est encore quelque chose qui vit en moi aujourd'hui. Et en ça, je pense que cette histoire, elle n'est pas terminée et qu'elle ne le sera jamais, peu importe si je suis en contact avec cette personne ou pas. Cette personne, elle est arrivée à un moment de ma vie où je commençais un petit peu à accepter que le cocktail CDI, Marie, Jardin et Balançoire avait un goût un peu rance dans ma bouche. Je capte à ce moment-là que j'ai pas envie d'être une adulte comme on m'a toujours dit ou fait sentir qu'il fallait être une adulte. J'ai peur d'être à jamais une espèce d'adulte pas fini, d'être ce genre de personne qui accepte pas de grandir, qui accepte pas de vieillir, et qui se retrouve un petit peu dans un entre-deux où c'est plus... t'es plus vraiment une enfant ou une ado en l'occurrence, mais t'es pas vraiment une adulte complète entre guillemets parce que tu coches pas les cases qui font qu'on te considère comme une adulte. Bref, c'est un moment de grands doutes, de grandes questions et de petites réponses qui mènent pas très loin. C'est dans ce contexte que M, je vais l'appeler M pour garder son prénom parce que j'ai envie de garder un petit peu ça pour moi je pense. Donc c'est dans ce contexte que M arrive dans ma vie. Donc M, il faut dire qu'elle a 20 ans de plus que moi, ça paraît énorme, vraiment ça paraît énorme, je le dis et ça me semble énorme, mais en même temps j'ai l'impression que dans nos rapports ça s'est pas forcément matérialisé cette différence d'âge. J'avais 21 ans à l'époque et je comprends d'autant plus l'importance d'une rencontre comme celle de M maintenant que j'en ai 26. Je pense que M, la personne que j'ai choisie pour m'inspirer pendant ce projet de broderie, c'est pas une personne dont j'aimerais prendre la vie comme modèle. Il y a plein de choses dans sa vie que je reproduirai pas forcément, qui sont des choix que je ne ferai pas forcément non plus. Et en fait, c'est pas une personne avec qui on s'est posé dans un moment solennel pour qu'elle m'apprenne les secrets de la vie et du bonheur. C'est une personne avec qui j'ai vécu les moments les plus quotidiennesques du monde, et oui, j'ai inventé ce mot, c'est-à-dire qu'on a mangé ensemble, on a bu des cafés ensemble, on a visité des musées ensemble, fait des promenades, des randos, etc. On a parlé de nos vies, oui, dans ces moments-là un petit peu informels. On a partagé des anecdotes, on a confié ce à quoi on rêvait, ce dont on avait peur, etc., etc. Mais on s'est pas posé un moment où elle m'a dit « Je vais t'apprendre les secrets de l'univers pour être heureuse dans la vie et vivre comme moi ». Je pense que ça s'est fait, en fait, parce que j'ai vu comment elle était, qu'on a partagé aussi des choses sur nos passés respectifs, sur ce qui nous a amené à faire les choix qu'on fait. Du coup, encore aujourd'hui, je vous avoue que je sais pas pourquoi c'est M en particulier qui est ressorti plus fort que n'importe qui d'autre, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont apporté beaucoup. Mais je pense que cette surprise, finalement, que je me suis faite à moi-même, que mon cerveau m'a fait à moi-même, elle est pleine de sens. Mais je pense que c'est la première fois où j'ai eu un déclic un peu conscient que là, il se passait quelque chose. Et d'ailleurs, du coup, je vais pouvoir vous parler très très rapidement de ce que j'ai brodé, parce que j'ai brodé du coup les initiales de cette personne. Ensuite, j'ai écrit un petit mot avec ces initiales-là, enfin des petits mots. Et il faut savoir que cette personne, du coup, elle était pâtissière et elle avait une règle. Et j'aime bien en parler parce que je trouve qu'avec le sujet, c'est très intéressant. Avec le sujet dont on a parlé pendant tous les cycles d'atelier, la transmission. Parce qu'elle avait une règle qui était qu'elle donnait jamais ses recettes. Et c'était pas une façon de dire « je garde mes recettes pour moi jalousement et personne d'autre n'y a accès parce que c'est moi la pâtissière ici ». Mais c'est qu'en fait, elle disait, pour apprendre, je peux pas te donner un papier avec des instructions, une liste d'ingrédients et de choses à faire. Il faut que tu sois là avec moi et j'accepte de les donner mes recettes uniquement si tu viens cuisiner avec moi. Et du coup, elle avait cette règle qui était qu'elle donnait ses recettes uniquement aux personnes qui venaient pratiquer la pâtisserie ou la cuisine, des fois, avec elle. Et je trouvais que c'était très, très parlant parce qu'on a parlé de transmission pendant des semaines et des semaines. Et en fait, même si on en parle beaucoup, même si on est capable d'identifier des gens qui nous ont transmis des choses, la transmission, c'est pas toujours très palpable, en fait. Comme je disais, ça peut être un moment, ça peut être lié à une expérience très particulière, à une personne, à une discussion. Et même en ayant bossé dessus pendant des semaines et des semaines, je trouve que ça reste un sujet qui est toujours très flou, qui est toujours très... il flotte un peu au-dessus de nous, on en parle, mais on a du mal à concrétiser un petit peu notre réflexion là-dessus. Et je pense que cette règle, cette fameuse règle qui m'avait fait rire à l'époque de « en fait, je te donne pas mes recettes et si tu veux les apprendre, il faudra que tu cuisines avec moi », je pense que ça résume bien un truc très très important sur la transmission, c'est que c'est pas une liste de choses qu'on liste et qu'on donne à une génération en dessous ou même à une personne autour de nous, c'est un moment qu'on partage ensemble où les deux personnes se transforment mutuellement au contact l'une de l'autre. Et qu'en fait, si tu passes pas de temps de qualité avec la personne, parce qu'il suffit pas de passer du temps, elle aurait pu aussi passer du temps pendant 20 minutes à me dicter quelque chose, on aurait aussi passé du temps ensemble, mais ça aurait pas été du temps de qualité par rapport à la pratique en elle-même qui est la pâtisserie et la cuisine. Et donc du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là avec la transmission, qu'on parle vraiment d'un temps de qualité passé avec la personne, sans même des fois qu'il y ait besoin d'échange de mots au final, mais juste des fois le fait que la personne existe, qu'elle soit là, et le fait de la voir en fait exister, avoir une place dans le monde, etc., bah, c'est déjà quelque chose qui est inspirant et qui peut nous transformer, nous, sans qu'on ait besoin en fait de partager des discussions extrêmement profondes. Et donc, pour finir rapidement sur M, mon objet que j'ai décidé de broder, c'est un tablier de cuisine, du coup. Je pensais que ça faisait sens avec le métier de cette personne, cette règle qui, quand j'y repensais là, parce que j'avais un peu oublié, et quand j'y repensais dans le cadre des ateliers, m'a vraiment frappée par rapport, encore une fois, au thème de ce cycle d'ateliers de broderie. Du coup, j'ai décidé de broder sur un tablier, et en plus, parce que mes petits apartés, la cuisine, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est vraiment un lieu de transmission incroyable sur plein de sujets. Que ce soit, voilà, se transmettre des recettes, se transmettre des techniques, discuter pendant qu'on cuisine avec la personne avec qui on cuisine et lui apprendre des choses, lui parler de sa vie, échanger des rêves, des peurs, des anecdotes joyeuses, tristes, etc. Donc, voilà, pour moi, vraiment, le tablier, je me suis dit, c'est l'objet de la transmission. Si je devais résumer la transmission en un objet, ce serait ça. Donc, du coup, j'ai brodé ce tablier avec des petits paysages de montagne et j'ai brodé des extraits d'un journal que j'avais écrit où je parlais d'elle et de tout ce qu'elle m'avait appris. Et du coup, j'ai repris ça. Ça faisait des années là, je pense que je ne l'avais pas relu. Et du coup, j'ai repris ça et j'ai brodé des petits extraits sur le tablier. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, cet épisode n'est pas censé être que sur moi, donc je voulais un petit peu vous expliquer quand même sur ce sur quoi j'avais travaillé, et parce que c'est en rapport vraiment avec la transmission, et comme c'est le sujet des ateliers, je pense que c'est bien d'avoir un exemple un peu détaillé. Si vous êtes intéressé, je vais mettre des petits visuels, des petites photos de ce que j'ai fait, et de la restitution, sur mon compte Instagram, donc si vous voulez en savoir plus et lire un peu plus à ce sujet, je vous donnerai plus d'infos à cet endroit-là, et puis vous aurez les visuels, ce sera beaucoup mieux que moi qui parle de ce tablier que vous n'avez pas vu. Et du coup, je vais revenir un petit peu aux autres personnes qui ont partagé cet atelier avec moi et qui ont aussi, elles, travaillé sur d'autres personnes. Donc vous avez vu, Hélène, qui a parlé tout à l'heure, c'était une personne à laquelle elle ne s'attendait pas, tout comme moi. Et bien pour d'autres personnes, le choix, il a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus évident. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Fanny de la collective sur la personne qu'elle a choisie pour ce cycle d'atelier.
Est-ce que quand tu as pensé à ce projet-là, il y avait tout de suite bébé qui est venu ou c'était une surprise? Est-ce que tu savais que ta personne inspiratrice, c'était elle?
C'est quand même c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que quand on me pose cette question, ce soit quand même elle qui vienne. Il y a deux personnes qui ont compté. Elle, qui donc n'est plus là, et une personne qui est encore vivante, qui a 96 ans maintenant, qui s'appelle Yvonne. Et je peux hésiter, tu vois, entre ces deux personnes qui sont un peu des figures de femmes à la fois très, très douces et délicates et à la fois très fortes, enfin, en tout cas très résilientes, je veux dire, par rapport à ce qu'elles ont pu vivre. Et donc, je pouvais hésiter avec Yvonne. Mais bébé, c'est comme une loyauté, voilà. En fait, c'est comme très important. Il y a d'autres personnes qui ont été quand même très importantes, même de cette génération, par exemple les vrais grands-parents. Mais c'est particulier. Donc c'est quand même elle qui vient et j'ai envie d'y revenir. Moi, je pense que je ne m'y attendais pas, hein, mais ça, c'est toujours un peu... Dans cette position où on est à la fois à l'initiative de ce temps et puis participant à ce temps aussi, évidemment ça m'a surprise d'y trouver aussi beaucoup, d'y trouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Là, pour moi, dans ce rendez-vous, même si parfois ça, je me souviens d'un ou deux rendez-vous où la disponibilité n'est pas toujours facile quand même à trouver, moi, ça m'a permis vraiment de me relier quand même à cette personne, donc bébé, qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a été comme une grand-mère. On n'avait pas de lien de sang, mais ça a été une personne vraiment qui, jusqu'à mes 15 ans, a été vraiment essentielle. Et donc, ça fait, donc j'ai bien plus de 40 ans. Donc, ça doit faire presque 30 ans qu'elle n'est plus là. Et autant, évidemment, après son décès, elle a été très présente dans les années qui ont suivi. Et puis, la vie fait qu'il y a des petits éclairs où elle est là, mais pas avec cette qualité de présence-là qui était permise dans ces ateliers. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup émue, je crois, de ressentir à nouveau le lien qui, malgré les années, par-delà les années, reste très vif. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Bien sûr que d'un autre côté, toute la question de qu'est-ce qui reste d'une vie Donc je peux la convoquer et elle peut être encore assez vivante en moi, mais par contre, notamment celles qui viennent après, mes filles notamment, mais pas que, elles n'en savent pas grand-chose. Et donc, c'est à la fois très fort de se dire qu'elle reste très présente et qu'elle compte toujours autant. Et en même temps, il y a quelque chose de très particulier dans le fait que ce soit si fugace et si... je trouve que ça renvoie aussi à une certaine idée de la solitude... et de bien vivre avec soi et qu'il n'y a pas forcément nécessité de continuer à faire vivre à tout prix, que c'est certainement très subtil, ce qui passe de bébé à la génération de ma mère, à la mienne et à celle de mes filles, il y a forcément des choses et que c'est peut-être pas nécessaire d'essayer de les capturer dans des mots, dans des souvenirs qu'il faudrait transmettre. Mais ça m'a beaucoup interrogée, voilà, sur ce qu'on transmettait.
En même temps, tout ce qu'elle t'a transmis, ça retentit dans tes gestes, dans tes choix, dans ta façon de, de danser les mouvements de la vie. Et ça se transmet forcément.
Oui, et c'est là où...
C'est pas forcément se focaliser sur la source, mais sur tout ce que ça... Tout le mouvement qui forcément est là.
Est présent, oui. et c'est vrai. Mais parfois, je sais que... il me vient l'idée que il faudrait que je la fasse vivre encore là, en convoquant des souvenirs, en racontant une histoire, tu sais, un peu comme de l'autobiographie, enfin pas de l'autobiographie, de la biographie. Mais il y a comme ça des grands mouvements dans sa vie et je n'en raconte pas grand chose, mais en fait cette idée elle est un peu incongrue en effet, parce que c'est pas si important que les gens sachent de quoi était faite sa vie, c'est qu'elle vit plutôt à travers, comme tu dis, notre manière d'être, en fait. Et là, je trouve que c'est beau aussi qu'il y ait des personnes qui laissent des empreintes telles que ça transparaît autrement que dans des histoires, des mots, des souvenirs, des livres, des...
Et moi, j'ai très touchée par le petit cartel... qui accompagnait les trois petites robes que tu as brodées pour tes trois filles, et où justement tu t'adresses à bébé et aussi à tes filles. Du coup, je me demandais est-ce que tes filles ont réagi ou t'en ont parlé? Est-ce qu'elles ont lu le petit texte que tu avais écrit?
Alma, qui est celle du milieu, m'a dit: maman, mais qu'est-ce que c'est triste! Et elle, je pense, parce que je dis: mais qu'est-ce que tu trouves triste? Elle entend que, parce que c'est aussi la question qu'elle se pose de la disparition, de la mort, de pourquoi on est là. Et elle, ce qu'elle retient, c'est cette personne. Et donc, j'imagine qu'elle... Alors, elle ne me l'a pas dit, mais c'est moi qui imagine qu'elle le transpose à son histoire. Et elle voit sa grand-mère, qui compte beaucoup pour elle, avec qui elle a un super lien. Cette personne, elle ne sera peut-être plus là. Et donc, tu as eu des personnes comme ça qui ont tellement compté et qui ne sont plus là. Et je trouve ça hyper triste.
Réfléchir à toutes ces choses, remuer le passé, ça demande de l'énergie. Ça implique aussi parfois des émotions qui peuvent être très très fortes, qui peuvent être très très intenses, et c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire avec d'autres gens. Je vous ai dit, moi au début c'était vraiment quelque chose qui m'a freinée, où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de partager ces moments-là qui vont peut-être faire ressortir des émotions extrêmement puissantes que d'habitude j'aime bien gérer dans l'intimité de mon foyer? Est-ce que j'ai envie de le faire là avec des personnes que je ne connais pas? Et en plus, on n'était pas un groupe de 5 en broderie, on était souvent une dizaine minimum. Donc du coup, ça fait tout de suite une échelle assez grande et beaucoup de gens avec qui partager des moments extrêmement intimes pendant lesquels même moi, je ne sais pas comment je vais réagir à certaines choses qui peuvent remonter. Pourtant, malgré tout ça et malgré ces scrupules initiaux, ces ateliers qui se sont succédés tous les jeudis ont mis en lumière le pouvoir qu'ont les groupes et aussi la douceur qu'on peut trouver dans ces groupes-là où on se pose, où on est là avec la volonté d'écouter, avec la volonté de partager et à quel point finalement une expérience qui m'avait semblé au début si intimidante a pu devenir un véritable moment où on se sent en sécurité pour parler de ce qu'on a dans la tête et dans le cœur.
Mais j'ai trouvé agréable ce temps, parce que c'était un temps suspendu, on prenait soin de nous, c'était une petite bulle, un cocon doux et chaleureux. Après, je me recrée aussi chez moi ces temps cocon seul. Mais c'est bien de regarder les ouvrages des unes, des autres, ça donne des idées, puis on est toutes très attentives et soucieuses du bien-être de chacune, ça c'est agréable. Après, si les hommes veulent nous rejoindre, broder, être soucieux, avec plaisir, c'est pas réservé à la féminité, aux femmes. J'aimerais bien qu'on continue à se revoir de temps en temps pour faire soit quelque chose de collectif, soit échanger sur nos travaux. Je trouve que c'est une très bonne façon de créer du lien à travers un projet commun.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, qui m'a profondément marquée, c'est la capacité à ces femmes à livrer des récits de vie très poignants, très intimes et très personnels, tout de suite. Parce qu'elles étaient dans un cadre bienveillant, dans un groupe qui a tout de suite trouvé sa dynamique, où la parole s'est libérée tout de suite. Et les échanges des récits de vie de chacune ont toujours fait écho aux autres, dans les récits des autres participantes. Et ça a nourri les échanges, ça a nourri nos créations et ça nous a beaucoup porté. Il n'y a pas un atelier où on n'a pas ri, on n'a pas pleuré, on n'a pas partagé des choses très personnelles. Et cette capacité-là, cette cohésion de groupe qui a trouvé son rythme tout de suite m'a beaucoup marquée et ça a donné des créations aussi belle que chargée de sens, chargée de partage de cette intimité dévoilée qui nous a fait beaucoup aussi réfléchir et avancer. Et le fait de le faire tout ensemble a été vraiment porteur et fondateur. Et pour moi, en tant que médiatrice culturelle, ça sera vraiment un des projets forts de mon parcours professionnel.
Dans ce groupe de brodeuses, j'ai été la première surprise de la rapidité avec laquelle on est entré dans les confidences. Alors oui, le sujet est si prête, il se prête à plonger dans l'intime, mais je pensais pas que ça serait si facile d'évoquer des anecdotes et des histoires aussi personnelles, avec, encore une fois, une dizaine d'inconnus à chaque fois. Alors, en réalité, ça a été plus facile pour certaines que d'autres. Certaines ont été extrêmement à l'aise pour parler rapidement, pour parler directement en fait des sujets un petit peu profonds et intimes, tandis que pour d'autres, et moi j'en fais partie, il a fallu un peu plus de temps. Au final, j'ai le sentiment quand même qu'on s'est toutes un peu bien complétées, dans le sens où les premières, elles ont entraîné les suivantes, parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui peut parler aussi librement de soi et de choses hyper personnelles, d'anecdotes familiales qui peuvent être un peu compliquées, ou de choses qui les tracassent et qui sont de l'ordre de l'intime, en fait ça invite aussi à le faire soi-même, parce qu'on voit en fait autour de nous que les gens réagissent très bien, on voit que même nous, on accueille la parole et on est présentes les unes pour les autres. C'est pour ça que je dis que j'ai le sentiment que les premières ont entraîné les suivantes en les tenant un peu par la main, et c'est elles au final qui ont un peu débroussaillé le chemin pour laisser la place aux suivantes de passer.
Je pense que ça permet en fait d'avoir un fil conducteur et puis un rythme et puis d'apprendre, et puis du coup en apprenant à se connaître, comme à chaque fois, hein, que ce soit homme ou femme, de créer des affinités ou du relationnel, de rebondir sur d'autres sujets ou d'autres choses en se disant tiens, ça je suis capable aussi, parce que ça renforce son estime de soi en fait, qui est importante, et c'est vrai que ça amène ça, voilà. Et vraiment cette bienveillance qui n'est pas exclusivement féminine, mais il y a une vraie force dans le groupe féminin. Ça c'est quelque chose dont j'ai la certitude. Je pense que la force des groupes aussi, c'est d'apprendre la tolérance et la patience. On est toutes extrêmement différentes, on vient d'univers complètement différents, avec des parcours de vie complètement différents, et d'apprendre l'écoute, patience et tolérance, dans le sens où on doit s'adapter à l'autre. Des fois, quand on bordait sur la nappe, en fait, on était très serré, on gênait l'autre parce que nous on avait besoin, et en fait c'est s'adapter en permanence. Et cette extrême proximité, ça t'oblige aussi, toi, à t'adapter. Voilà, après, c'est super. Enfin, moi, j'adore écouter les autres. Et j'ai besoin de ça dans les premiers temps. Puis après, ça te permet aussi de te livrer. Voilà, enfin, c'est chouette d'avoir les suggestions des autres ou l'aide. Ou j'avais été particulièrement touchée aussi. Hélène avait... je crois que c'était la deuxième séance ou la troisième. Elle m'a amené un boîtier d'appareils photo qui traînait chez elle. Et sincèrement, je crois que ça fait des lustres, enfin, que quelqu'un n'a pas fait spontanément, enfin, quelqu'un que je connais pas, en fait, me fait un cadeau spontanément. Et en fait, il a une place de choix à la maison. Je l'ai pas encore, je sais pas encore si je vais faire quelque chose à l'intérieur, mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait touchée, cette espèce de générosité commune. Chacun a amené quelque chose, et surtout son cœur, en fait, je crois. Voilà.
Ce qu'on a trouvé dans ce groupe, c'est pas juste lié à ce groupe en particulier. Je pense que c'est ce qui se passe quand on crée un environnement qui est propice au partage, et quand je dis ça, je parle du vrai partage. Pas « je te donne un, tu me donnes un, je te donne deux, tu me donnes deux ». Je parle du partage où chacune ramène ce qu'elle peut, et on tient pas les comptes de qui a ramené quoi sur la table, on prend ce que les autres veulent bien donner, et on donne ce qu'on est en mesure d'abandonner au groupe. Cette écoute, cette bienveillance et cette générosité, je pense que c'est ce qui nous a permis de naviguer un sujet qui peut être compliqué, et d'ailleurs qui l'a été pour plein de personnes pour qui ça a fait remonter des choses qui n'étaient pas forcément très joyeuses à certains moments. Et le fait d'être dans ce contexte-là, dans ce groupe-là, ça nous a permis en fait d'être déstabilisés et d'accepter d'être déstabilisés parce qu'on savait qu'il y avait des gens derrière pour nous rattraper si jamais il y avait besoin. Et au-delà de cette belle dynamique de groupe, parce que voilà, c'est une chose, je pense que le groupe a joué pour beaucoup, l'animation du groupe aussi a joué pour beaucoup, pour moi, il y a un autre ingrédient qui a été essentiel à la réussite de ce projet. Peut-être que vous l'avez senti venir, mais c'est mon métier, c'est normal. Pour moi, l'ingrédient aussi magique qui a permis que ça se passe aussi bien, c'est le fait qu'on a choisi de travailler sur de la broderie. La broderie, comme beaucoup d'arts du fil, c'est une technique qui est bien particulière et qui n'est pas anodine pour créer une atmosphère qui est propice au partage et à la transmission. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la symbolique du fil. C'est une pratique qui invite à discuter, qui invite à dérouler sa pensée comme on déroule le fil entre nos mains, qui invite à se confier, qui invite aussi à accueillir les paroles des autres, tout en restant physiquement concentré sur sa broderie, mais émotionnellement relié à toutes les personnes de la pièce. Et en ça, c'est pour ça que je dis que c'est un art qui crée une atmosphère qui invite à partager des choses et à se transmettre des choses.
Quand ça tourbillonne autour de moi, qu'il y a plein de choses à faire et que tout d'un coup, c'est vraiment trop, c'est... Un redépart pour moi, c'est me fixer sur une toute petite chose comme recoudre un bouton ou préparer un petit truc. Mais en tout cas, revenir à quelque chose de petit, c'est un peu comme la mayonnaise qui prend pas. Et du coup, il faut se remettre sur un petit truc. Et moi, ce que je trouve intéressant avec la broderie, c'est que c'est pas du tout raisonnable. Ça dure beaucoup trop de temps de broder. Voilà, on est dans une époque où on arrive à aller vite, tchac, 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 tchac. Et alors, tout d'un coup, on s'arrête pour broder. Ça veut dire qu'on va, on sort complètement du temps habituel. On devient un peu voyageur, en fait. Et c'est un voyage où les yeux sont tournés vers la broderie, mais l'esprit et les discussions vont loin, en fait. Voilà. Et c'est le hasard du groupe, ceux qui ont pu venir là, ce jour-là. Parfois, je me dis, c'est pas facile. On a abandonné quelque chose d'autre pour être là. On a fait de la route. Voilà, moi, une fois, je suis venue alors que je sortais quasiment de l'hôpital. C'est juste un peu difficile d'être assise. Mais voilà, ce groupe a porté tout ça. Et sans que ce soit forcément dit. Hein. Oui. Et, voilà. D'ailleurs, il y avait beaucoup de silence aussi. Ouais, ça fait du bien de s'arrêter. Et s'arrêter sur quelque chose d'important, être avec les autres. Et puis, penser fort et à ce qui est l'essentiel, ce qui nous a été transmis, ce qui vibre. Et c'est rarement une proposition qu'on nous fait dans la vie. On est là pour perdre du temps, mais on sait très bien que ça va nous faire gagner beaucoup plus que le temps qu'on a perdu. Enfin, on n'en a pas vraiment conscience, mais on s'en rend compte après coup.
Moi, il me semble que ce qui était vraiment hyper fort, c'était d'avoir ce rendez-vous régulier. C'est-à-dire qu'un peu comme les enfants qui aiment bien être ritualisés, il y avait ce rendez-vous chaque semaine où on prenait un temps un peu hors du temps, justement, d'une deux semaines qui sont quand même souvent très chargées, où la broderie, elle nous permet aussi un peu ce retour sur soi, un peu cette pause. On a souvent eu envie d'ailleurs plus longue, parce qu'en fait, on s'était fixé 2 heures et on avait très envie que ça dure plus longtemps, la plupart du temps. Alors, on l'avait quand même tout de suite pensé comme un cycle fermé. Enfin, pas comme un rendez-vous qui commençait en octobre et dont on ne savait pas la fin. Et certainement aussi que le fait qu'il y ait quand même des fins, même si c'est un peu frustrant, parce qu'on n'a pas réussi toujours à achever ce qu'on avait envie de faire chacune, dans les objets qu'on avait eu envie de créer. C'est aussi parce qu'il y a un début et une fin que ça donne aussi une certaine intensité à ces moments, je pense.
La force de ce cycle d'atelier, c'est aussi ce rendez-vous fixé chaque semaine, comme le disait Fanny. On le bloque dans notre agenda, on se libère du temps pour pouvoir venir et on se déplace à la collective ou au muséum Art Latent selon les semaines. Donc c'est un réel investissement, c'est même, je dirais, un engagement à être là, à continuer à travailler sur nos broderies et à être présente dans le groupe. C'est-à-dire que, en fait, personne ne vient réellement juste pour broder, puisque ça, on peut le faire chez soi, mais on vient aussi pour participer à cette dynamique-là, pour échanger avec les autres, pour se revoir aussi après une semaine depuis la dernière fois qu'on a brodé ensemble. Et plusieurs fois, d'ailleurs, on nous a proposé de prendre la nappe chez nous à tour de rôle et de continuer à la broder chez nous. Et ce qui est marrant, c'est que ça n'a jamais vraiment pris. Je pense qu'il y a une personne ou deux qui l'ont pris à un moment donné parce qu'elles estimaient qu'elles avaient du retard. Mais en fait, au final, il y a très très peu d'entre nous qui ont avancé chez elles la nappe. Il y en a très peu aussi qui ont avancé chez elles leur projet personnel entre chaque session. Et j'avoue qu'au début, moi, j'ai un peu mis ça sur le dos de ma fainéantise. C'est-à-dire que je me disais, bah voilà, j'arrive pas à prendre du temps pour me remettre là-dessus. Une fois que je suis chez moi, alors que j'ai pas besoin de... Enfin, alors que mon objet personnel que je brodais, je le ramenais toujours chez moi, mais je prenais jamais le temps, en semaine, de revenir dessus en dehors des séances. Et je me disais, bon, bah vraiment, c'est parce que je suis fainéante, quoi. Et maintenant, alors je sais pas si c'est pour me dédouaner et dédouaner toutes les autres, mais maintenant, avec quelques semaines de recul, je pense qu'il y a aussi un truc qui est que c'était dur de se replonger dessus seule, quand on avait l'habitude en fait de le faire en groupe. Et je l'ai déjà dit, mais broder à plusieurs, c'est une expérience qui est à part entière. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à participer à ce projet, moi je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point enrichissant de broder collectivement. J'avais mes appréhensions, clairement des appréhensions de brodeuse solitaire et de personne solitaire aussi je pense, et j'avais peur aussi, j'avoue, de perdre du temps. Ce qui est un petit peu ironique quand je passe ma vie à dire que c'est bien de perdre son temps et que la broderie c'est cool parce que justement ça apprend à prendre le temps alors qu'aujourd'hui on essaie toujours d'optimiser le temps et de gagner du temps surtout. Mais j'avoue que pour le coup mes vieux démons sont un peu revenus. Mais si je vous dis tout ça aujourd'hui c'est parce que je suis prête à faire mon mea culpa. Je suis prête à admettre que j'avais un petit peu tort sur la façon dont j'ai abordé cet atelier au début. Et il faut que j'admette que pratiquer la broderie ensemble dans un tel groupe, c'est pas juste, entre guillemets, pas si mal, c'est vraiment une expérience d'une richesse extrêmement particulière. Se confier et partager de l'intime pendant qu'on travaille sur un ouvrage qui demande autant d'attention, donc encore une fois, on a vraiment les yeux qui sont extrêmement focus sur ce qu'on fait. Dans nos gestes aussi, bah, on doit être extrêmement précis, donc on est obligé d'être concentré. Ça procure une certaine pudeur aux échanges et ça permet de plus facilement se livrer. Ça, j'en avais parlé dans l'épisode du coup sur la symbolique du fil, l'épisode 38. C'est qu'en fait, le fait de pas regarder la personne quand elle parle, de soit être concentré sur son truc, de même quand on est la personne qui parle, de pas être obligé de regarder l'assemblée et de continuer à broder pendant qu'on discute, ça fait que chaque personne a l'espace de s'exprimer sans sentir le poids des regards, sans sentir le poids de l'attention sur elle. Et on peut à n'importe quel moment, nous, lever les yeux de notre ouvrage et réagir ou intervenir, mais on n'est pas obligé. Et en fait, si on le fait pas, la personne, elle sait qu'elle est entendue malgré tout. C'est pas nécessaire de répondre, c'est pas nécessaire d'apporter des solutions, parce que des fois, il y en a juste pas, et puis des fois, c'est, même s'il y en a, techniquement, c'est pas ce que la personne, elle recherche. Et du coup, ouais, cette pratique de la broderie, ça permet vraiment d'avoir des échanges qui restent dans la pudeur, et c'est parfait justement quand on est dans un groupe avec des personnes qu'on connaît assez peu finalement, même à la fin de la petite dizaine d'ateliers qu'on a fait. Je peux pas dire qu'on connaissait tout le monde sur le bout des doigts et qu'on était toujours bah, du coup à la bonne place pour réagir à certaines histoires ou à certaines confessions. Mais du coup, le fait d'avoir ce contexte qui est un peu pudique par la pratique de la broderie, ça permet de pouvoir échanger, de pouvoir partager sans se stresser à devoir réagir, sans se stresser à devoir réfléchir à ce qu'on va raconter ou pas. On peut juste partager et, bah, comme je disais tout à l'heure, prendre ce qu'on a à prendre, donner ce qu'on a à donner, sans jugement et devoir rendre de compte à personne. Pendant qu'on déroule, qu'on démêle et qu'on coupe le fil de broderie au milieu de la table, il y a un fil invisible qui se tisse entre nous. C'est un fil qui relie nos histoires et qui nous rattache les unes les autres d'une façon que nous seuls pouvons percevoir. C'est quelque chose qui n'est pas visible pour les personnes qui peuvent passer peut-être à ce moment-là et voir par la fenêtre qu'on est en train de broder. C'est quelque chose qui n'est pas forcément visible par quelqu'un qui n'a pas le son de ce qui se passe, qui n'est pas dans l'atmosphère que nous partageons à ce moment-là. Mais pour autant, c'est un fil solide qui s'est tissé tout le long des séances et qui aujourd'hui, je pense, nous reliera très très longtemps. Qu'on se revoie régulièrement ou non, c'est un lien que nous continuerons à partager en tous les cas. Session après session, de fil en aiguille, on a brodé ensemble la nappe, et puis on a brodé nos œuvres personnelles. Et au fur et à mesure que les séances passaient, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de tout ça. Parce que c'est vrai que si on avait passé des moments extrêmement précieux dans l'intimité de ce groupe-là, je pense que c'était aussi important que le projet il aille un peu plus loin, que d'autres puissent y avoir accès, même sans avoir participé aux ateliers toutes les semaines comme nous on l'a fait. Alors nos trois animatrices, donc encore une fois Claire, Fanny et Hélène, ont proposé une restitution au Muséum Art Latent, qui a eu lieu le 9 mars, donc encore une fois le lendemain de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. C'était pas anodin de faire ça le 9 mars, on voulait une date qui avait un petit peu un sens symboliquement, et puis en fait le 8 mars, c'était pas forcément non plus le moment pour organiser ce genre d'événement, parce que c'est encore une fois une journée de lutte, c'est une journée où il y a beaucoup de choses qui sont déjà organisées par ailleurs et qui sont très importantes. Et donc du coup, il y a eu cette idée de faire cet événement le 9 mars, le lendemain de cette journée-là, et de proposer une restitution de tout ce travail qu'on avait fait avec la collective et le Muséum Art Latent. Le programme de cet événement, il était un peu chargé et farfelu, je dirais à l'image de nos ateliers. Tout d'abord, il y avait bien entendu l'exposition de nos œuvres brodées, puisqu'on a passé quand même des semaines à les broder et on était très contente de les montrer. Il y avait la nappe qu'on a brodée ensemble aussi, qui a pu être exposée avec toutes nos petites initiales, tous nos petits motifs, nos 20 000 couleurs, etc. Et en parallèle de tout ça, en même temps, il y avait un coin atelier où le public pouvait venir s'installer pour broder avec nous pendant le temps qu'il voulait. Donc ça pouvait être 10 minutes, ça pouvait être 3 heures. Nous, on était là pour leur donner le matériel, leur montrer un peu quelques points, les guider, et puis après on les laissait faire et explorer la broderie aussi à leur sauce. La salle retraçait aussi notre aventure avec des photos prises en atelier, des montagnes de matériel qui ont été chinées pendant les mois où on a travaillé ensemble, et même un bar à anecdotes avec des moments croustillants qu'on a partagés ensemble et qu'on pouvait raconter aux visiteurs et aux visiteuses qui venaient et qui se posaient des questions sur les différentes anecdotes qui étaient présentées.
Alors l'important pour moi dans la démarche de médiation, c'était d'apporter le musée à ce groupe de femmes qui ne serait pas forcément un public habituel du musée. C'était de pouvoir leur apporter le patrimoine ethnographique provençal qui est présenté au musée, puisque le musée a une histoire toute particulière et c'est un vieux musée, un des premiers musées d'ethno. Et donc on s'intéresse à l'ethnographie de la Provence du 18e à nos jours, mais en tant que musée de société, à un territoire aujourd'hui et à toutes ses facettes. Et donc pouvoir montrer à nos publics et en l'occurrence à ces femmes qu'elles sont chez elles au musée et que le patrimoine du musée est le leur et qu'elles le construisent au fur et à mesure du temps, au fil du temps et avec leur création et avec toute cette réflexion autour de l'identité, du partage entre femmes, des questions de transmission. Voilà, c'était aussi leur montrer que leur place était aussi au musée et je crois que le défi a été relevé. Elles sont chez elles aujourd'hui, elles se sont installées et elles ont déplacé, délocalisé pour la journée l'atelier ici et voilà, et chacun a trouvé sa place ici, c'était important pour moi.
Bah, je trouve ça assez intéressant parce que du coup la réaction des gens elle est chouette. Tout à l'heure c'était je sors les photos que j'ai glissées dans ma pochette à photos hein, puisque du coup c'est devenu une pochette à photos souvenir et tout et une dame d'un âge certain qui me dit dis donc votre grand-père il était charmant, voilà, donc c'est rigolo parce que c'est en même temps ce sont des photos très personnelles et en même temps c'est autour d'un projet, donc je choisis de montrer ou de pas montrer, je choisis ce que je raconte, tout ça autour en fait de la broderie, de ce qu'on a partagé, et du coup les gens s'intéressent, pardon je te fais du pied, soit s'intéressent plus à la broderie, soit plus au projet. Voilà, même le photographe s'est intéressé au marque-page, à l'histoire, aux photos, à ce qui nous a motivés, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on est en train de faire là sur la table en fait pendant qu'il y ait visite. Et voilà, l'intérêt des gens, je trouve super intéressant. Finalement, quelque chose de personnel devient non pas impersonnel, mais prend une autre dimension. Et le recul, parce qu'on ne connaît pas ces gens, fait que ça donne un autre niveau à nos objets en fait et on arrive à avoir le recul nécessaire en fait, du coup c'est pas émotionnel quand on en parle à des inconnus en fait, enfin, en tout cas pour moi.
La restitution du 9 mars, c'était un moment qui était très très fort, déjà parce que c'était la fin officielle de cette aventure et que c'était forcément un peu fort pour nous parce qu'on avait terminé officiellement normalement en décembre et puis on avait refait quelques séances de broderie en janvier, en février, un petit peu en rab. Mais déjà, c'était un peu moins fréquent, c'était à plusieurs semaines d'intervalle, et puis on commençait à sentir la fin, mais on s'attachait un petit peu à ces ateliers, donc c'est pour ça qu'on avait rajouté des séances en plus. Et là, c'est vrai que le 9 mars, c'était vraiment la fin de la fin de la fin, puisque c'était la restitution, on a présenté nos œuvres, et puis à la fin, on repart avec, et puis on se dit au revoir, et on sait que même si on se reverra peut-être, et même on se reverra forcément avec certaines, ce groupe-là, il est fini. C'est-à-dire que ce groupe-là qui se rencontre à la collective ou au musée en art latent avec une bonne tisane, des petits gâteaux et qui discute et qui brode pendant 3 heures, ça on sait que c'est terminé et que peu importe ce qu'on va faire maintenant ensemble, ce sera forcément un autre contexte, ce sera forcément une autre atmosphère, on travaillera peut-être pas forcément sur les mêmes sujets, donc on sait que c'est la fin quand même de quelque chose. Et au-delà du fait que c'était la fin, je pense que c'était un moment qui était fort aussi parce que c'était une façon d'exporter tout ce qu'on avait fait en dehors de notre petit cocon à la collective. C'était vraiment un saut dans le grand bain. C'était vraiment un moment où du coup on a ramené des objets qui sont par essence extrêmement personnels parce qu'on travaille sur la transmission, on a pensé à des personnes qui nous ont marqués dans nos vies. Et là en fait on les montrait à des purs inconnus qui sont venus pour observer nos œuvres, pour nous faire des retours, pour participer aux ateliers, etc. Et c'est vrai que c'était un moment un petit peu particulier d'exposer ça en public et d'avoir des gens qui prenaient en photo, qui discutaient entre eux sur ce qu'ils avaient vu, parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, ce truc-là, il nous appartient plus totalement, mais pour autant, bah, ça reste quelque chose qui est très intime pour nous, donc c'était un moment très intense. C'était une occasion quand même de parler avec des inconnus de ce qu'on a fait, de leur transmettre aussi ce que nous, on avait appris pendant nos ateliers, parce que bah, du coup, il y a plein de personnes qui sont venues à ces ateliers sans pratiquer la broderie auparavant, qui ont appris plein de points et qui, pendant les ateliers le jour de la restitution, ont pu aussi apprendre ces points-là aux personnes qui sont venues. Donc du coup, il y a vraiment ce truc-là, on a prolongé le fil de la transmission qu'on avait commencé à filer pendant nos ateliers. Et du coup, c'était une belle fin aussi, parce que c'est une fin qui s'est ouverte sur peut-être des nouvelles personnes qui vont se lancer dans la broderie, des nouvelles personnes qui ont participé à ce cycle-là, même si ils sont jamais venus le jeudi après-midi, mais qui sont venus en fait pour la fin broder avec nous et qui ont vécu ce moment de clôture avec nous, même si eux n'ont peut-être pas ressenti à quel point ce moment était fort et intense, ils ont participé à ce truc-là d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, je l'ai dit, mais j'insiste parce que c'est vraiment c'est super important et puis c'est un gros sujet, mais je pense que choisir un art du fil et spécifiquement la broderie pour aborder ces questions, c'est une des meilleures décisions qui a été prise pour ce projet. Je suis très très contente et très reconnaissante que les choses se soient structurées de cette façon quand le projet a été créé. Et je pense que voilà, la broderie, ça nous a permis, au-delà de travailler sur nous, ça nous a aussi fait expérimenter la pratique collective avec un objet, le fil, qui est très très propice au lien, qui est vraiment la métaphore ultime du lien. Et contrairement à ce que je pouvais penser au début, ce que je fais seule, ce n'est pas ce que je vais faire avec les autres. Je sais aujourd'hui que ce projet, il a transformé ma pratique vraiment en profondeur. Alors je vais bien sûr continuer à broder seule une bonne partie du temps, parce que déjà c'est mon métier et qu'il y a des choses que j'ai besoin de faire parce que justement je puise en moi et je suis pas forcément prête à ce que ça ressorte à ce moment-là. Mais je sais aussi que maintenant je vais réserver du temps pour des pratiques plus collectives, des temps de création en commun avec d'autres personnes, que ce soit de la broderie pure où moi je fais de la broderie et l'autre personne ou les autres personnes font autre chose. Et je veux aussi réserver ces temps-là pour avoir des moments de partage avec d'autres personnes qui sont dans la création et avec qui bah, je vais pouvoir partager, on va pouvoir échanger bah, sur ce qu'on crée, sur ce qu'on met derrière et sur ce que ça fait ressortir de nous aussi. Et je pense que c'est vraiment ce que je retiens de ce cycle d'ateliers et ce pourquoi je suis très reconnaissante que ce cycle ait eu lieu, ce pourquoi je suis très contente d'y avoir participé, c'est que j'ai compris que moi je manie le fil au quotidien dans le cadre de mon travail, je le manie seule, je crée du lien entre les choses, je raconte des histoires avec le fil, mais je pense que maintenant, en tout cas c'est quelque chose que j'ai compris pour moi et pour ma pratique, je pense que c'est important quand on manie le fil de veiller à le tisser aussi entre nous et les autres. Et pas que ce soit juste je travaille le fil, c'est moi, ma main, l'aiguille, le tissu, le fil. Non, je pense qu'il faut garder aussi en tête que c'est important de veiller au lien qu'on a avec les autres et de le tisser et d'y apporter en fait autant d'attention et de délicatesse qu'on le fait quand on est en train de broder ou quand on est en train de tisser ou quand on est en train de faire du crochet ou du tricot ou je ne sais quoi qui implique du fil. Je pense que c'est important de se rappeler que le fil le plus important, c'est celui qui nous relie aux autres et qui raconte nos histoires. Et pour une fois, je ne vais pas conclure cet épisode moi-même et je vais laisser le mot de la fin à Hélène et à sa douce voix pour qu'elle vous reste dans la tête à la fin de cet épisode.
Non, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est la démonstration que j'ai voulu te faire l'autre jour qui n'a pas marché. Si dans un bol d'eau, tu mets une aiguille, alors pour qu'elle flotte, tu la piques sur un petit bout de papier. Et si tu mets l'aiguille dans le bol d'eau, alors je crois qu'il faut la frotter un peu sur un aimant. Donc c'est rigolo par rapport à cette idée du cœur quand même. Tu frottes un peu sur un aimant pour la magnétiser. Cette simple aiguille à coudre, elle va indiquer le nord. Voilà. Donc je trouve ça beau parce que je pense que dans tout ce qu'on a entendu, on sent que c'est des parcours, on a des parcours, bah, comme tout le monde, qui, avec des contretemps, des questionnements, etc. Et de savoir que... bah, une simple aiguille, ça peut montrer le nord. Je trouve que c'est une belle, voilà, un beau chapeau pour cet atelier.
Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut !